Science en question par Étienne Klein. Aujourd'hui, que nous apprend la fréquentation de l'impesanteur ? Un beau jour de novembre 1907, alors qu'il rentrait de déjeuner, Einstein eut, selon ses propres mots, l'idée la plus heureuse de sa vie. Il la raconte ainsi. J'étais assis sur ma chaise au bureau fédéral de Berne et je compris d'un coup que si une personne est en chute libre, elle ne sentira pas son propre poids. Fin de citation. Einstein prit là pleinement conscience d'une sorte d'évidence, compréhensible par tout un chacun, mais jamais formulée par quiconque. Lorsque nous tombons en chute libre, tous les objets qui sont proches de nous, par exemple notre parapluie ou notre chapeau, tombent comme nous, à la même vitesse que nous, de sorte que par rapport à nous, ces objets ne tombent pas. Ils nous apparaissent comme s'ils étaient en lévitation, comme s'ils n'avaient plus de poids. Tout se passe en somme comme si l'accélération produite par la chute effaçait sa cause, en l'occurrence le champ de gravitation qui a provoqué cette chute. En clair, le fait de subir la gravitation de façon libre, sans être arrêté par un plancher ou par la terre ferme, met paradoxalement en état d'impesanteur. En encore plus clair, la chute des corps met la gravitation hors du spectacle, ce qui n'est sans doute pas un hasard si l'on veut bien remarquer que hors du spectacle est l'anagramme de la chute des corps. Où est-ce que je veux en venir, me direz-vous ? Au fait que tomber en chute libre met dans une situation équivalente à celle que vivent les astronautes en orbite autour de la Terre. Mais comment reproduire cette situation sans aller dans l'espace ? Réponse, en réalisant des vols dits paraboliques, qu'on appelle aussi des vols zéro-g. En quoi consistent de tels vols ? À quoi servent-ils ? Que permettent-ils de comprendre ? Telles sont les questions du jour. Et pour y répondre, j'ai la joie de recevoir deux invités. Le premier est Jean-François Clairvoy, bonjour.
Bonjour Étienne.
Vous êtes ingénieur, pilote de chasse, astronaute. Vous avez accompli trois missions avec la NASA. D'une part, vous avez volé deux fois à bord de la navette spatiale Atlantis. Et puis, vous avez volé une fois à bord de Discovery. Pour un total, si je me suis pas trompé, de 675 heures dans l'espace. Nombre qui donne, si on le divise par 24, 28 jours. C'est ça ?
C'est ça, trois fois une dizaine de jours dans la navette.
Et mon second invité est Sébastien Rouquette, vous êtes ingénieur et vous êtes chef du projet vol parabolique au CNES.
Bonjour.
Bonjour. Jean-François, je vais commencer par vous. On est bien d'accord que ce qu'on appelle l'impesanteur, ça n'est pas l'absence de pesanteur.
Alors c'est l'absence de sensation de poids, c'est comme ça que je le vis, puisque lorsque j'ai été soumis à l'impesanteur pour la première fois en vol parabolique sur de courtes durées, répété, puis dans l'espace à plusieurs reprises dans la longue durée, la première chose qui frappe, c'est que on ne sent plus qu'on pèse quelque chose.
C'est-à-dire que pour sentir son poids, il faut un obstacle, il faut une force qui nous montre que ce poids existe.
Voilà, en fait, c'est après avoir vécu l'impesanteur que je réalisais que lorsque je suis debout, c'est la pression que je sens sous mes pieds que je vais oublier de ressentir. Donc il faut écouter son corps qui presse sur le pied ou assis là maintenant, les cuisses qui pressent sur le coussin de la chaise, qui me rappelle que je pèse quelque chose.
Mais quand vous êtes en impesanteur, là je parle d'expérience dans l'espace, vous êtes dans une navette spatiale par exemple, vous avez quand même une masse. Alors la question que j'ai envie de vous poser, c'est comment est-ce qu'on sent son corps quand on ne sent pas son poids, mais qu'on sent qu'on a une masse ?
Ah oui, ça me rappelle comment soulever ma moto quand elle est couchée. Il faut que j'applique une force au moins égale à son poids pour la soulever. Dans l'espace, il m'est arrivé de déplacer des objets de 200 kilos en les tenant, comme on dit, avec des pincettes entre le pouce et l'index. Je ne peux pas leur donner une grande vitesse soudaine parce que la quantité de matière est toujours là, mais je n'ai pas besoin d'exercer une force égale au poids de l'objet lorsqu'il est sur Terre, donc 200 kilos, pour le déplacer. Une petite force de quelques grammes, dizaines de grammes, suffit à le déplacer lentement, et ça, c'est magique.
Mais il faut combien de temps pour s'habituer à cette ambiance très spéciale ?
Alors, afin que les astronautes ne soient pas surpris, tous ceux qui se préparent à leur premier vol spatial vivent au moins une fois avant leur vol deux expériences extraterrestres, mais sur Terre. La centrifugeuse, pour vivre l'accélération qui est l'inverse de l'impesanteur. On est tassé avec plusieurs fois la sensation de notre poids dans une sorte, comme un panier à salade qui tourne très vite, donc on est tassé sur le siège.
C'est de l'hypergravité ?
Voilà, l'hyperpesanteur.
Hyperpesanteur.
Et puis les vols paraboliques pour se familiariser par un ou deux vols, ça suffit, à ce que représente cet état. Et une fois qu'on le vit dans l'espace, on reconnaît. Mais ce qu'il y a de paradoxal, c'est que pour vivre un état d'impesanteur, que ce soit en vol parabolique ou dans l'espace, il faut avoir souffert juste avant d'une hyperpesanteur. Donc ça rend l'impesanteur encore plus spectaculaire. On est tassé à 3-4G sur son siège. D'un seul coup, cette accélération, cette sensation de peser très très lourd disparaît et tout flotte. La poussière, les checklists, pour toujours. Et à la fin, quand on se repose, c'est l'inverse. Quand on revient de l'apesanteur prolongé, on a l'impression d'être fabriqué en plomb. Alors qu'on se met debout sur une balance et notre poids n'a pas changé. Donc il y a l'apesanteur...
Enfin, votre masse n'a pas changé. Oui. Mais votre poids, il a changé.
Oui, le poids. Le poids, quand je me pèse sur une balance au retour, si j'ai pas... Enfin, beaucoup d'astronautes perdent 1 ou 2 kilos, mais bon...
Mais, ah oui, à votre retour, vous avez gardé
retour,
le même
retour
poids.
Sur mais... Terre, voilà.
Et si vous pesiez dans la navette, ça donnerait quoi? C'est impossible de se peser.
Alors... deux techniques ont été
comment
utilisées.
Comment est-ce que vous savez que vous avez perdu de la masse quand vous êtes en orbite?
Alors, bon, là, c'est ce que nous disent les physiciens comme vous, mais je vous crois. Mais pour certaines expériences, on a besoin de mesurer le poids, enfin, ou la masse, on va dire la masse. Donc, il y a deux techniques, la plus couramment utilisée, c'est celle qui consiste à vous solidariser un petit siège monté sur un ressort que on va faire entrer en vibration. Et la fréquence de résonance de l'ensemble du ressort et de la masse que vous représentez associée permet de retrouver la masse parce que les équations sont connues. Et donc c'est assez précis.
L'expérience de pensée que j'ai rappelée qu'a fait Einstein en novembre 1907 l'a conduit à formuler un principe fondamental qui s'appelle le principe d'équivalence. Équivalence entre l'accélération et la gravitation. Et ça l'a mené 8 ans plus tard à la formulation d'une nouvelle théorie de la gravitation qui s'appelle la relativité générale. Et donc, ce que vous vivez, c'est une application directe de ce principe d'équivalence.
Ah, c'est génial. Enfin, c'est sûr que tout astronaute s'est intéressé à ce principe d'équivalence après avoir volé dans l'espace. Parce qu'on se pose des questions sur ce qui nous arrive. Pourquoi je ne ressens pas? Pourquoi toute ma vie j'ai ressenti que je pesais quelque chose? Parce que toute ma vie mon corps a pressé sur quelque chose, sur le matelas quand je suis allongé, sur la chaise quand je suis assis ou debout, sous la semelle de mes pieds quand je suis, voilà, quand je marche. Mais de temps en temps, et c'est ce que maintenant je dis aux gamins quand je vais parler dans les écoles primaires, si vous êtes sages, je vous mets tous en apesanteur avant la fin. Alors souvent j'oublie, monsieur, vous nous aviez dit que vous nous mettiez tous en apesanteur comme les astronautes dans l'espace. Et là, je les fais sauter pieds joints. Et je leur fais la démonstration. Je mets sur ma main un crayon. Je bloque mon bras. Je saute. Et la fraction de seconde où j'ai décollé du sol, on voit que le crayon ou la masse qui pressait un peu sur la pulpe de mes doigts et de ma main se décolle, monte avec moi, redescend avec moi. Et après, ils peuvent rentrer chez eux et dire « Maman, on a été en apesanteur aujourd'hui.
» En lévitation. Ils ont vu de la lévitation. Est-ce que... Quand on est en apesanteur pendant longtemps, et je ne sais pas si la durée de vos séjours dans l'espace a été suffisamment longue, est-ce que ça modifie la façon de rêver? Autrement dit, est-ce qu'au bout d'un certain temps, quand on rêve, lors d'un sommeil dans une navette spatiale, on finit par rêver qu'on est en apesanteur, ou est-ce que la gravitation est engrammée dans notre cerveau?
En discutant entre nous, astronautes de vol de longue durée, de courte durée, on se rend compte qu'on a tous des expériences de rêve très différentes. Il n'y a pas une règle générale. J'ai rêvé parfois du boulot que je venais de faire la journée précédente, de la tâche que j'avais le lendemain, et ça m'est arrivé de rêver que je volais dans l'espace, mais sans besoin de scaphandre ou de navette. Et je flottais. C'est-à-dire que la sensation l'impesanteur qui nous permet de flotter librement pendant toute la durée du voyage, ce qui fait grâce à un collègue astronaute américain qui m'avait dit « Profite que tu es dans l'espace pour faire des choses impossibles sur Terre. Enfiler son pantalon, les deux jambes à la fois, faire pipi la tête en bas, dormir au plafond. » Je dormais au plafond toutes les nuits. Il y a que dans l'espace qu'on peut dormir au plafond.
Mais est-ce que ça change votre façon de parler? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des mots qui ont plus de sens quand on est en apesanteur? Haut, bas, ça a plus de sens. Est-ce que si on avait toujours été en apesanteur, notre langage humain serait différent?
Je pense qu'on oublie... Alors, on oublie la verticale au bout d'un moment. C'est-à-dire qu'on se sent très à l'aise à l'envers. Alors que j'ai essayé chez moi au retour de me mettre à l'envers dans mon salon. Je m'assieds sur le divan, mais à l'envers, la tête à l'envers. Et je ne reconnais pas mon salon. Je suis tellement habitué à le voir à l'endroit. Mais dans l'espace, en vivant à l'envers, plusieurs heures, puis plusieurs jours d'affilée, on finit par être capable de lire les mots à l'envers sur les étiquettes et de se dire mentalement dans sa tête ce qui était avant mon plancher devient mon plafond. Et c'est très ludique. Et on développe un sens de l'orientation omnidirectionnelle qu'on ne développe jamais sur Terre, parce que sur Terre, on est toujours guidé par la verticale.
La verticale polarise notre rapport à l'espace.
Ouais, voilà.
Mais Jean-François Clairvoy, quand vous parlez de vos expériences, vous avez, je ne sais pas si vous le savez, vous avez les yeux qui s'écarquillent.
Parce que je me vois dedans.
Ouais. Ça amène ma question. Est-ce qu'il y a une nostalgie de l'espace? Ah, quand oui. On y a été, est-ce qu'il y a une sorte de manque?
Je ne connais pas un seul astronaute à qui vous pouvez proposer de retourner dans l'espace et que vous répondra ça ne m'intéresse plus. Aucun. Donc vous me donnez un ticket demain, je repars. Et je repars pour plusieurs raisons. L'aspect ludique de l'apesanteur, parce que ça, c'est pas la sensation la plus bouleversante dans une vie d'astronaute, parce que la vue de la Terre est encore plus forte, mais c'est très ludique, on joue avec, et c'est très pratique. Au départ, on est maladroit, mais après, on utilise toutes les parois, et quand on revient chez soi, on est très frustré d'être obligé de poser tous les meubles sur une seule surface parmi les 6 faces d'un cube, et de ne pas pouvoir aller s'allonger sur les parois, au plafond.
Mais ça veut dire que la gravité terrestre n'a pas la valeur optimale? Si elle était un peu plus faible, j'imagine que les relations entre nous, la vie sur Terre, seraient plus faciles.
En tout cas, avec le temps d'accoutumance à l'apesanteur, on finit par trouver plus d'applications pratiques d'être en apesanteur que l'on voit davantage être soumis à une pesanteur permanente sur Terre.
Mais c'est quand même pas très bon pour la santé, d'après ce que j'ai pu lire.
Alors c'est ce que nous disent les toubibs. Ils nous disent vous êtes décalcifié, déshydraté, irradié, atrophié, déficient immunitaire.
Mais content.
Mais c'est pas grave. Et comme on le sent pas, on les croit. Alors par contre, il y a deux aspects qu'on le ressent. C'est que la tête se remplit de sang. Parce que le sang ne pèse plus et le cœur continue à l'envoyer vers le cerveau, mais par excès.
Parce que le cœur, il comprend pas qu'on en a besoin. Il fait le même travail que sur Terre.
C'est paradoxal parce qu'il envoie un excès de flux sanguin vers le haut du corps. Et en même temps, il s'atrophie, parce qu'il a moins d'efforts à faire pour faire circuler le sang, puisqu'il n'a pas à s'opposer au poids du
vide. Donc c'est pas très bon, ça.
Non, c'est pas bon. C'est pour ça qu'il faut faire du sport tous les jours. Et sur les vols de longue durée, c'est quand même 2 heures à 2 heures et demie de sport tous les jours. Imaginez, dans votre vie terrestre, au travail, vous devez réserver 2 heures par jour au travail à courir, à ramer, à pédaler, à faire de la muscu, tous les jours. Sinon, vous êtes incapable de rentrer chez vous.
Sébastien Roquette, est-ce que vous êtes allé dans l'espace?
De façon intermittente, oui, peut-être. En tous les cas, j'en ai le goût encore. Quand Jean-François exprime ce qu'il ressent lorsqu'il était dans l'espace, j'ai l'impression de lire en fait dans son regard exactement ce que je ressens lorsque je suis en vol parabolique. Alors c'est certes une sensation différente parce qu'elle n'est pas identique en durée, hein, et de façon intermittente par tranche de 20 secondes, c'est peut-être difficile de se rendre compte.
Expliquez-nous ce qu'on appelle un vol parabolique.
Et le vol parabolique, en fait, c'est cette espèce de trajectoire qu'a imaginé l'esprit humain, le génie humain, pour justement tenter d'effacer les effets de la gravité. Et le génie fait que on est capable de reproduire par une trajectoire pilotée une courbe qui est une courbe d'impesanteur, donc de chute libre, qu'on peut rattacher à une portion de trajectoire orbitale. Alors c'est une portion de trajectoire orbitale, mais évidemment infraspatiale dans la mesure où on reste en dessous de la fameuse limite de l'espace qui est à une centaine de kilomètres d'altitude. Avec un avion, on est au maximum à une dizaine de kilomètres d'altitude. Hein. Donc là, avec notre avion à 310 0G, on est entre 6000...
Qui est possédé par la
société Novespace, qui est une filiale du CNES, exactement, qui a été créée au milieu des années 80 pour gérer l'aspect opérationnel de l'organisation de ces campagnes scientifiques. Et donc cet avion, lui, il réalise ses portions de trajectoire entre 6000 et 9000 mètres, avec une vingtaine de secondes d'impesanteur sur chaque portion de trajectoire.
Et donc un vol, ça dure 2 ou 3 heures. Pendant ces 2 ou 3 heures, on fait 40 paraboles.
30 paraboles.
30 paraboles. Donc une montée à 45 degrés.
Ouais.
Où là, on ressent deux fois son poids.
À peu près. 1,8 fois, voilà. Donc 80% de poids en plus.
Puis l'avion retombe, pas en chute libre.
Alors, enfin, justement.
C'est ça qui est bizarre. Il retombe pas en chute libre, mais c'est les conditions de l'apesanteur qui sont quand même réalisées.
C'est ce qui est très intéressant, c'est qu'il tombe tout d'abord vers le haut. Puisqu'en fait, il continue sur sa trajectoire inertielle. Donc, à partir du moment où les pilotes placent l'avion sur cette trajectoire très particulière qui équilibre les forces de pilotage et qui ne laisse en fait que le poids agir, donc que la gravité, dans cette phase-là, l'avion continue à monter pendant une dizaine de secondes.
On prend de l'altitude alors qu'on tombe.
Exactement. Et c'est ça tout le... Là, il faut faire cet effort intellectuel de comprendre que la chute libre, ça n'est pas forcément ou pas que une chute vers le bas. C'est d'abord une première moitié de chute vers le haut et ensuite, de façon symétrique, la chute vers le bas. C'est vraiment tout à fait comparable à, prenons une image très populaire, un ballon dans lequel on tape. Le ballon va avoir une trajectoire en cloche. Dans toute cette trajectoire-là, le ballon peut être considéré comme étant, or si on néglige les forces de frottement, en chute libre. Donc si on avait un ballon parfaitement transparent avec des objets à l'intérieur, il serait exactement comme dans la cabine de l'avion. Tout flotterait à l'intérieur, en lévitation, comme dans la chambre d'Einstein, et jusqu'à ce que le ballon rencontre de nouveau le sol. Donc on a vraiment une trajectoire balistique. La science des boulets de canon nous a appris que...
En fait, chuter, c'est simplement être soumis à la gravitation.
C'est tout simplement ça. La notion de chute libre, de façon scientifique, c'est la notion de trajectoire balistique. Donc,
on est soumis à la gravitation et à aucune autre force.
Et à aucune autre force.
Oui, Jean-François Clairvoy, vous connaissez bien ces vols.
Oui, ben j'ai...
Vous avez été un pionnier.
Voilà, j'ai créé ces vols il y a 33 ans avec un collègue astronaute, Jean-Pierre Aigneret, avec une caravelle. Et j'aime bien dire, en fait... On lance l'avion en l'air, comme on lancerait une balle, un ballon, comme le disait Sébastien, en lui faisant croire, pour ce qui est de sa trajectoire, qu'il est dans le vide. Donc, il faut un pilotage particulier.
On baratine l'avion, c'est ça que vous dites?
Voilà, par un pilotage particulier, on peut faire en sorte que les seules forces restantes sur l'avion, qui sont des forces aérodynamiques, la poussée des moteurs, la traînée, qui est la résistance de l'air, la portance sur les ailes, on peut faire en sorte que la somme de ces forces... égale zéro.
Ça veut dire que le pilotage, c'est de l'orfèvrerie.
Exactement. C'est très précis. Alors, c'est pour ça que c'est un avion qui est piloté par trois pilotes simultanément. Chacun se charge d'un axe.
Expliquez-nous.
Il y en a un qui se charge de monter-descendre. Donc, c'est celui qui fait qui pilote la manœuvre balistique. Mais comme les avions sont tous un peu voilés, et les ailes sont pas parfaitement symétriques, selon la vitesse, il a plutôt un peu tendance à s'incliner un peu vers la droite ou vers la gauche. Donc, il y a un pilote qui se charge de compenser pour maintenir les ailes horizontales en permanence. Et comme il s'agit de compenser la traînée, la résistance de l'air par la poussée des moteurs qui varie avec la vitesse et l'altitude, doublement, parce que plus on monte, plus l'air est rare et la vitesse faible. Donc, il faut ajuster la poussée des moteurs. Et donc, il y a un pilote qui est dédié à la manette des gaz. Voilà. Et en fait, si on regarde l'avion de loin, si on imagine qu'il n'y a pas d'atmosphère, il suit la même trajectoire qu'aurait un vaisseau spatial sur cet arc orbital qui ne contourne pas entièrement la Terre, comme le disait Sébastien, dont une partie de cette trajectoire théorique traverse la Terre. Mais nous, voilà, on suit un arc d'orbite terrestre qui est compatible avec les vitesses et altitudes de l'avion, avec trois pilotes, et qui pratique régulièrement. Parce que pour une correction à faire, le pilote, c'est manuel, pour corriger une erreur d'un centième de G au pilotage, selon que vous soyez en bas de la parabole ou en haut, c'est pas le même effort et le même débattement.
Pour le pilote.
Parce que en haut, l'air est raréfié, l'avion est lent. Donc il faut plus de débattement des gouvernes pour un même effet de correction. Donc
il faut des pilotes qui soient spécialement entraînés pour ça.
Voilà, il faut qu'ils pratiquent très régulièrement. Et jusqu'en 2012, on leur faisait faire 4-5 vols par an à vide, juste pour pratiquer. Et depuis 2012, une démarche que j'ai eue sur plusieurs années avec la direction de l'aviation civile française et européenne, on a obtenu l'autorisation de faire voler des passagers payants à bord de ces vols, qui sont des vols d'entraînement des pilotes, de pratique, pour affiner leur pilotage. Et c'est comme ça qu'on a des sociétés privées qui privatisent tout l'avion ou des particuliers. Et tous les bénéfices de ces vols touristiques sont reversés aux agences spatiales pour commander plus de recherche. Notre mission, c'est d'offrir ce laboratoire de recherche à une diversité de scientifiques, sciences de la matière, de la physique des fluides, des matériaux, de la biologie, la physiologie humaine, animale, végétale, physique des particules, etc. Et c'est là que Sébastien intervient pour ses campagnes scientifiques.
Alors Sébastien Roquette, j'ai une question un peu prosaïque, excusez-moi, mais il me semble, et c'est mon expérience qui me l'a appris, que l'estomac est un assez bon accéléromètre. Donc comment est-ce qu'on fait dans ces vols-là pour ne pas être malade ?
La plupart du temps, les gens résistent parfaitement et pourtant on ne sélectionne pas les scientifiques sur ces critères-là, hein, sur ces critères de résistance. C'est vraiment une sélection sur des critères scientifiques, donc de performance, mais c'est de qualité de recherche en fait, hein, donc d'excellence scientifique. Et les participants, les équipes scientifiques qui viennent travailler à bord de ce laboratoire volant, sont pas particulièrement aguerris à ce type de manœuvre, hein, parce que c'est évidemment ce n'est pas de la voltige aérienne, mais vu de l'extérieur, on pourrait croire que c'est le début de manœuvre acrobatique avec un avion qui pèse un peu plus de 120 tonnes. C'est quelque chose de très impressionnant. Pour autant, les gens résistent parfaitement. Alors c'est vrai que c'est déroutant. Hein, c'est vrai que c'est déroutant parce que c'est pas seulement l'impesanteur en fait qu'on ressent. C'est qu'on va passer, on va passer un enchaînement pendant 3 heures de phase de vol où on est à 1G, donc notre poids
habituel,
notre poids terrestre en palier ou au sol. On passe à 1G, puis on va passer à 1,8G pendant ces phases de cabré et de ressources avant et après la parabole. Et puis on enchaîne avec les phases de 0G. Donc 30 fois par vol, on a du 1G, 1,8, 0, 1,8, 1G et on continue comme ça. C'est un peu perturbant pour l'estomac, mais aussi pour l'oreille interne, parce que notre corps est bardé de capteurs, en fait. Lorsque vous disiez tout à l'heure, notre esprit est ancré dans la gravité et inversement, il y a une interpénétration de la gravité et de notre esprit, et notre vocabulaire en dépend aussi, mais en fait c'est gravé dans notre corps également, parce que nous avons été conçus de cette façon. Et on ne peut pas, alors, ni conceptualiser, ni imaginer à quoi ressemblerait la vie en dehors de la gravité. Donc là, on est confronté à ça et on le réalise vraiment lorsqu'on est en 0G. Parce qu'on va tout de suite prendre conscience que nos capteurs corporels, notre oreille interne, nos capteurs visuels, parce que le regard, la vision intervient également de manière importante là-dedans, sont totalement perturbés. Et cette perturbation, ça peut être simplement une sensation étrange de ne plus vraiment comprendre ce qu'on voit, d'avoir ce sentiment parfois d'inversion du panorama qu'on a devant nous, de plus comprendre, comme le disait Jean-François, où se trouve le plafond, le sol. Et ça peut aller jusqu'à parfois effectivement un peu de un sentiment un peu nauséeux, comme on peut le ressentir lorsqu'on a le mal des transports.
Combien d'expériences peuvent être embarquées durant un même vol?
Sur une campagne de vol parabolique, on embarque généralement une dizaine à une douzaine d'expériences scientifiques.
Voilà, ça représente... Sur des thèmes qui sont extrêmement variés, j'ai
très varié.
Quelles sont, est-ce qu'il y a des dominantes? Il y a beaucoup de recherches médicales.
Alors, il y a deux dominantes. La physique de la matière, avec en particulier la physique des fluides, les milieux granulaires. Et puis les sciences de la vie au sens général, avec une partie prépondérante pour les sciences médicales et notamment la physiologie humaine. Et dans cette catégorie de la physiologie humaine, c'est essayer de comprendre comment le corps s'adapte à cette situation d'impesanteur.
Mais sur des durées assez courtes, 22 secondes, est-ce qu'on a le temps de voir des effets?
C'est ce qui est fabuleux, c'est que les effets dont on parlait tout à l'heure, alors que ce soit les radiations, mais qui ne sont pas liées à l'impesanteur, hein, ou bien la décalcification, la perte musculaire, sont des effets plutôt à long terme. On les voit apparaître lorsque les astronautes sont dans l'espace pendant plusieurs semaines à plusieurs mois. Et ce sont des effets délétères qui durent, hein, qui ne s'amortissent pas avec le temps.
Dans l'espace. Mais
dans l'espace, oui. En vol parabolique, évidemment, la durée est trop courte pour se rendre compte de ce genre d'effet. Par contre, nous sommes une matière basée sur des fluides essentiellement. Et les fluides réagissent de manière instantanée à l'impesanteur. Et le cardiovasculaire s'adapte lui aussi de manière instantanée.
Le cœur ?
Le cœur s'adapte de manière instantanée.
Le sang n'a plus de poids, donc comment est-ce qu'il circule ? On peut voir des différences ?
Alors cet effet d'afflux de sang dans le haut du corps, il est perceptible et mesurable, hein, en vol parabolique bien entendu.
Parce qu'il est instantané en fait.
Il est instantané. Et le cœur va s'adapter lui aussi de manière instantanée, c'est-à-dire qu'il va ralentir. Alors, il y a des effets secondaires, hein, qui apparaissent ensuite lors des vols spatiaux avec un rééquilibrage, en fait, des fluides corporels pour permettre de répartir de nouveau correctement les fluides et de faire baisser la tension et la pression sanguine. Mais là, en vol parabolique, évidemment, c'est un peu court en 20 secondes. Par contre, le cœur va ralentir. Et donc, les expériences qui s'intéressent à ça essaient de comprendre, en fait, la communication entre tous ces capteurs sensoriels dont on n'a pas conscience pour la plupart, hein, dont des barorécepteurs, donc des récepteurs au niveau des artères qui viennent mesurer finalement la pression sanguine à l'intérieur, qui vont ensuite de manière centralisée réguler la répartition des liquides, la vitesse de battement du cœur, et de manière à adapter le corps humain à cette sensation. Alors là, on parle d'une adaptation, je vais dire, alors immédiate, certes, positive au sens où il n'y a pas d'effet délétère. Mais l'adaptation, c'est pas forcément quelque chose de positif. Et on le voit avec ce qu'illustrait Jean-François tout à l'heure. C'est que lorsqu'on va voyager dans l'espace pendant des semaines ou des mois, c'est un petit peu, pour l'astronaute, l'éloge de la vieillesse réversible, parce que la décalcification osseuse, les pertes musculaires, les troubles sensoriels, de l'équilibre, sont des choses qui sont heureusement réversibles pour lui, mais absolument délétères.
Mais ce qui est quand même au niveau
Jean-François Clairvoy.
Au niveau du ressenti, ce qui est quand même spectaculaire, c'est que l'astronaute qui arrive en orbite, en quelques minutes, il se sent à l'aise. Il est capable de vivre, normalement, manger, dormir, se laver, travailler, réfléchir.
Faire des saltos.
On s'adapte très vite. Par contre, on met beaucoup plus de temps à se réadapter à la vie terrestre au retour. On n'a pas le droit de conduire ou de faire du vélo ou de la moto pendant plusieurs jours après l'atterrissage parce que le risque d'avoir un accident est estimé à 100%. Parce que l'oreille interne qui nous informe de l'équilibre, etc., c'est décalibré, c'est déréglé. Donc, moi, je me demande pourquoi...
Est-ce que c'est pas douloureux ce retour sur Terre ?
C'est pénible.
Il y a des tensions. La taille, quand on part pendant plusieurs mois, la taille augmente. On prend quelques centimètres et donc il y a un tassement qui peut être...
Alors oui, mais pénible. Ça on le ressent pas. On le mesure, mais je veux dire, c'est pas quelque chose qui gêne. Ce qui gêne vraiment, c'est que dès le retour, on est très désorienté. Quand on bouge la tête, on a l'impression que c'est le monde autour de nous qui bouge et pas la tête qu'on vient de commander, dont on vient de commander la rotation. Et on se sent très très lourd. Moi, à tel point que le jour de mon premier atterrissage, je dormais chez moi. J'ai passé mon bras sous le matelas pour vérifier qu'il touchait pas le plancher, parce que j'étais persuadé que j'étais tellement lourd au point que mon matelas devait faire un U. Alors que pourtant, je savais que je devais peser toujours à peu près le même poids, mais je n'arrivais pas à y croire. Et j'ai mis je me suis mis même sur une balance.
Ça veut dire que la gravitation s'était désengrammée de votre cerveau.
Ah oui. Oui. Et elle met beaucoup de temps à se reprogrammer.
Mais alors, psychiquement, comment est-ce qu'on est? Est-ce que le retour dans le champ de gravité, dans l'apesanteur, en deux mots, est-ce que c'est psychiquement douloureux? Comme s'il fallait faire un deuil de son absence?
Ah, je crois que c'est pas ce qui nous vient à l'esprit tout de suite, parce que quand on part, on a déjà un programme très détaillé à la minute près de ce qui va se passer juste après l'atterrissage. Et les astronautes professionnels, ils sont là pour faire leur job. Comme disait Neil Armstrong, comment c'était sur la Lune? I was just doing my job. Je faisais juste mon job. Ouais, c'est un peu décevant, mais.
Oui, c'est un peu décevant. C'est un peu plat, si
mais
je veux dire.
Tout de suite, on est engagé dans des briefings, etc. Et,
il n'y a pas de phase contemplative?
Non, il faut le prendre, il faut penser à prendre sur son temps libre, lorsqu'on est revenu, de réfléchir à ce qui vient de nous arriver, sur le plan personnel, humain, mental, spirituel. Et puis c'est pas facile, parce qu'on est tellement sollicité que...
Sollicité par...
Par la famille, par les amis, par le boulot, que... il faudrait qu'on puisse isoler quelques heures... sans que personne vienne nous poser des questions, et qu'on se remémore ce qu'on vient de vivre. Et là, on se dit quand même, j'ai fait quelque chose de ouf.
Mais
c'est incroyable.
Sébastien Roquette.
Mais je pense que les astronautes aujourd'hui qui font des vols de longue durée, en fait, ont beaucoup plus de temps dans leur temps libre, notamment le dimanche, dans la Station Spatiale Internationale.
Le dimanche, ça veut rien dire.
Si, si, si.
Aucun des libres.
Mais ils ont 16 dimanches par semaine, parce qu'en fait, le soleil se lève et se couche 16 fois par jour, donc ils ont un dimanche avec 16 levées et couchées de soleil. Ils peuvent faire 16 fois la grasse matinée le dimanche, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc ça leur laisse du temps pour réfléchir à leurs conditions de terrien ou d'extra-terrien, dans la mesure où, sur ces vols de longue durée, ils ont quand même un petit peu de temps libre pour contempler et s'interroger sur leur position.
Non, mais c'est important ce que tu dis, parce que c'est vrai que si on ne pense qu'au travail, on oublie de passer du temps à réfléchir au sens de tout ça dans l'histoire de l'humanité. Et moi, je connais des collègues qui ont oublié de regarder les étoiles. D'autres, ils sont tout le temps restés à l'endroit par rapport à la verticale théorique du vaisseau. Puisque
ils n'ont regardé que la Terre.
Ou regardé la Terre. Parce que les astronautes qui vont dans l'espace à ce jour, à part quelques exceptions maintenant, ils vont pour travailler. Donc ils ont besoin d'un simulateur. Or le simulateur, il est sur Terre. Donc il est à un endroit où il y a une verticale, il y a un G. Et donc quand on part dans l'espace, on a la mémoire de l'entraînement et on reste debout comme on l'était dans le simulateur, pour le confort d'être sûr de pas faire d'erreur et de travailler comme le simulateur nous l'a appris. Et on oublie de vivre à l'envers. Moi, c'est un collègue américain, Story Musgrave, qui est un peu considéré un peu comme un extraterrestre au sein du corps des astronautes de la NASA, qui m'a dit, pense à vivre une journée entière à l'envers. Du réveil au coucher.
Et sur Terre, pour s'entraîner? Pour s'entraîner?
Dans l'espace. Quand tu seras dans l'espace. Regarde la rotation de la Terre. J'étais sur une orbite très inclinée par rapport au plan équateur, c'est un petit peu technique, mais quand traversais l'équateur, il m'a dit, vise un point à l'horizon, qui est pile dans l'axe, et au moment où tu passeras au-dessus, il sera pas en dessous, il sera sur le côté, parce que le temps que tu as mis à le survoler, la Terre a tourné. Mais il faut y penser. C'est comme les étoiles, il faut penser à éteindre toutes les lumières dans le cockpit.
Oui, il faut éteindre les lumières, sinon on voit pas les étoiles.
Sinon on les voit pas.
Mais si on les voit, c'est-à-dire si on a éteint, elles sont de quelle couleur?
Ah, c'est fantastique, parce qu'elles ne scintillent pas. Donc on perçoit très bien les couleurs,
c'est l'atmosphère qui est
rouge, jaune ou et qui dépend de la température et on débat sur ce que c'est. J'étais avec des astrophysiciens dans mon troisième équipage et on a passé deux orbites, on a dû décaler le retour pendant deux orbites, rien à faire. On a fait que regarder la voûte céleste tout éteint. Voilà. Mais il faut y penser. Faut penser à toutes ces choses-là. C'est comme dormir au plafond, c'est un souvenir que j'ai. J'ai l'impression que j'étais dans un autre univers. D'ailleurs, je pense à une chose. On parle de zéro G. Quand j'ai inventé ce terme pour qualifier les vols en Europe, je me suis trompé. On devrait dire zéro P. Parce que quand on dit zéro G, sous-entendu G et gravité, tout de suite, au premier abord, on interprète, il n'y a plus de gravité. Zéro gravité.
Ça dépend si on écrit un grand G ou un petit G. Le petit G, c'est l'accélération, et G, c'est la constante de Newton.
Et puis, tout dépend aussi du langage qu'on utilise, parce que dans l'aéronautique, on parle bien de G. Hein. Quand on fait de la voltige aérienne, on parle bien de G en termes d'accélération.
Mais c'est des petits G.
C'est des petits G. Ce sont des petits G. Ce sont les petits G de l'anglo-saxon gravity, qui veut dire pesanteur. Et qui veut dire gravité aussi.
Oui, en anglais.
C'est un peu notre difficulté.
Alors, je sais pas si, Sébastien Roquette, vous êtes également pilote de chasse.
Non, pas pilote de chasse.
Mais pilote...
Pilote.
Et pilote de chasse, on prend combien de jets quand on est pilote de chasse?
Moi, je suis ingénieur navigant, donc j'ai fait des vols sur avion d'armes. Mais celui qui offre le plus haut niveau de G, c'est le Mirage 2000 ou le Rafale.
C'est combien?
C'est 8 à 9 G, beaucoup plus qu'en dans un vol spatial, mais en plus sur l'axe le plus défavorable. Parce que si vous subissez une accélération, un tassement de votre corps sur votre siège du haut vers le bas, le cerveau a tendance à se vider de sang.
Donc on
commence par perdre la vue. On reste conscient, tout à fait, ça fait pas mal, mais le champ visuel s'assombrit, devient gris, on perd les couleurs, et puis on voit plus. Et après on tombe dans les pommes si on va plus loin. Pour empêcher cela, on a des pantalons dits anti-G qui pressent très très fort. C'est des vessies qui se gonflent d'air sous très forte pression, qui compriment le mollet, les cuisses, l'abdomen. Ça fait mal, à 9 ou 10 G. Mais au moins, on reste conscient. Mais nous, dans tous les vols spatiaux, à la montée, à la descente, on est assis sur notre dos. Donc en fait, tout le monde ici pourrait supporter. Enfin, je veux dire, 95% de la population...
C'est combien de G quand on est en route vers le vaisseau?
Alors le nombre de G, rappelons, c'est la poussée divisée par la masse. Par exemple, la navette spatiale, la poussée c'est 3000 tonnes et la masse qui décolle c'est 2000. Donc on décolle 1,5 G. Mais la poussée elle reste la même, alors que la masse elle diminue à raison de 10 tonnes par seconde. Donc on arrive à 3 G maximum dans le cas de la navette, et c'est plutôt 4,5 dans le Soyouz. Donc c'est, on se sent pressé sur le siège au décollage un petit peu, juste un petit peu. 1,5 la navette, 1,4 le Crew Dragon, 1,2 le Soyouz, 1,1 Saturne V au décollage, ceux qui partent vers la Lune. Mais vers la fin de la poussée, vers la fin de la montée, quand la poussée est très forte mais que la masse est très faible parce que les réservoirs sont vides, on est assez à 3, 4 G, presque 5. C'est physique, c'est on physique. Le sent, mais c'est supportable.
Et quand on arrive en apesanteur, est-ce que la conscience de soi est modifiée? Autrement dit, est-ce que le fait de ne plus sentir son poids modifie le rapport à soi, le sentiment que sa main, son bras nous appartiennent?
Alors, dans la durée. C'est-à-dire, au début, on travaille, on touche des choses. On touche les interrupteurs, on touche le manche de pilotage, on touche les checklists. Donc, on est au contact de matière, de matière physique. Mais sur le temps libre, si on se laisse flotter à côté d'un hublot, par exemple, en ne s'agrippant à rien, s'il n'y a rien qui vous rappelle que vous avez un corps, rien qui vous gratte ou vous fait mal quelque part, petit à petit, on oublie le contact du corps avec ce qui reste, qui sont peut-être le slip, les sous-vêtements, enfin parfois on porte quasiment rien, ou un t-shirt, et on finit par oublier qu'on a un corps. C'est pas seulement qu'on oublie qu'on a un poids, enfin on n'en a plus d'ailleurs, mais on oublie qu'on est fait de matière, et on oublie qu'on a un corps.
On oublie qu'on a une masse.
On est une conscience flottante. On oublie qu'on a une masse.
Sébastien Rouquette.
Merci Étienne d'avoir dit on oublie qu'on a une masse, parce qu'effectivement le poids lui n'a pas disparu.
Oui.
Le poids c'est mg.
Oui.
La masse n'a pas disparu.
Et
G, alors là g c'est la gravitation.
Mais le poids il est compensé par l'accélération.
Oui, alors disons que on accompagne la chute du vaisseau spatial, donc effectivement, on ne chute plus relativement au vaisseau spatial. Mais je trouve extraordinaire que finalement ce soit l'absence de sensation de poids qui nous permette de ressentir quelque chose par son absence. Et, oui. Et c'est la raison aussi pour laquelle, alors dans les vols scientifiques, on peut pas conseiller ça aux expérimentateurs forcément, parce qu'ils sont là pour travailler eux aussi, donc il leur est difficile de s'extraire de leur travail pour tenter de ressentir un petit peu la sensation. Et dans les vols de découverte, je conseille toujours aux passagers de prendre le temps de faire une ou deux paraboles sans rien faire. Ne pas chercher à toucher quoi que ce soit. Car finalement, c'est là qu'on se retrouve vraiment dans une situation où on va non pas incarner la sensation, mais au contraire, le terme n'existe pas, je pense, mais c'est une sensation de on excarne la sensation de notre de ce qu'on est finalement. Et là, on se rassemble. Enfin, moi, en tous les cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti plusieurs fois. J'ai l'impression de me rassembler autour de ma perception cérébrale finalement. Et le reste n'existe plus.
Et on peut dire, en fait, pour résumer ce que tu viens de dire, on peut dire, on a toujours notre corps, on a toujours cette quantité de matière qui nous compose, on a toujours un poids, mais le poids, on a l'occasion de sentir qu'on en a un, que si un obstacle nous freine ou nous arrête.
C'est exactement ça.
Donc on est en chute libre perpétuelle quand on est dans l'espace, ouais. Et par tranche de 20-23 secondes quand on est en vol parabolique. Et puis dans les parcs d'attractions, il y a ce qu'on appelle les tours de la terreur, ou ouais, les ascenseurs de la mort.
Ouais.
Donc on monte dans un ascenseur, et d'un seul coup, on nous fait croire que les câbles se sont coupés. Et pendant 2-3 secondes, on décolle du sol.
Mm-hmm.
Et on vit l'état.
Mais est-ce qu'on pourrait vivre en permanence en apesanteur? Est-ce que physiquement, d'après les recherches que vous suivez, Sébastien Rouquette, on observe des limites qui empêcheraient qu'on puisse y rester définitivement?
Bah, aujourd'hui, des limites, c'est clair qu'il en existe beaucoup. Hein. La décalcification, la perte musculaire, l'adaptation du cardiovasculaire, elle est à peu près maîtrisée, et pour le musculaire également, avec l'exercice qui permet de compenser en partie.
Mais non, elle n'empêche pas de rester très longtemps.
Tout à fait.
C'est, elle empêche de revenir.
Absolument, c'est de revenir. Le voyage spatial, il y a d'autres effets délétères, hein, on les a évoqués tout à l'heure, comme les radiations, mais l'impesanteur elle-même, par ses effets, aujourd'hui, on n'a pas trouvé de limite, en fait, à justement, à l'évolution de ces effets. Alors, les vols spatiaux, même s'ils sont plus longs aujourd'hui qu'il y a une dizaine ou une vingtaine d'années, ils n'ont pas permis d'avoir de déterminer s'il y a un effet asymptotique, donc un effet qui plafonne finalement, une durée qui plafonne les effets de l'impesanteur. Est-ce que dans les vols encore plus longs, des vols au-delà de un an, on verra une sorte de plafonnement de ces effets? Je ne sais pas. Pour l'instant, c'est pas le cas, et c'est effectivement quelque chose qui limite notre capacité de projection dans un voyage interplanétaire, par exemple. Alors, il y a d'autres limites, bien entendu, à ça. Là, on parle des effets physiologiques. Il y a des limites technologiques aujourd'hui qui sont très fortes. Et puis, la première limite, hein, à mon sens, qui est la limite liée aux distances dans le système solaire ou dans l'univers, qui font que partir pour un voyage qui pourrait durer des centaines ou des milliers d'années, c'est quelque chose qui est totalement illusoire. Mais à l'échelle de l'être humain dans le système solaire, et avec la possibilité de voyage au long cours vers la Lune ou vers Mars, il y a des effets dont on craint qu'ils ne soient pas arrêtés, stoppés.
Oui,
par...
Sébastien,
Jean-François Clairvoy.
Pour bien répondre à la question, donc tu vas me dire si j'ai bien compris ce que tu dis. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des effets progressifs qui font qu'à un moment donné, il faut arrêter si on veut pouvoir revivre sur Terre. Mais imagine un astronaute qui part dans l'espace avec l'intention de rester en apesanteur toute sa vie. Mm-hmm. Aujourd'hui, j'ai l'impression que il n'y a rien qui empêche de vivre. Enfin, il n'y a rien qui mène à la mort, si tu veux.
Oui, c'est
en
c'est
étant
clair.
Exposé dans la durée.
Même la décalcification ou la perte musculaire.
On pourrait imaginer que l'être humain qui vivrait cette expérience-là deviendrait un invertébré au bout de quelques décennies ou quelques générations.
Il serait peut-être soumis à un risque accru de fracture, mais s'il est soumis à des efforts importants. Mais s'il est en apesanteur continue, il n'a pas besoin du tout des muscles et des os qu'il a sur Terre. Donc aujourd'hui, on avait le maximum, c'est un an et deux mois sans redescendre. Valérie Polyakov.
Il va comment ?
Il va très bien. Et le vol précédent, c'était presque 10 mois. Donc, deux vols très très longs. Les experts disent, donc des centres médicaux, notamment l'IMBP à Moscou, où il y a beaucoup d'expertise, les médecins pensent savoir ce qu'il faut faire pour tenir 2 ans en apesanteur continue, un être humain, en étant capable de le ramener à une vie saine sur Terre, avec un temps de réadaptation. Mais au-delà, on ne sait pas. C'est pour ça qu'on n'est pas prêt encore pour le premier voyage habité vers Mars, si on considère que le premier voyage habité vers Mars n'inclura pas la descente, mais que aller vers Mars, tourner autour, télécommander des robots à la surface de Mars depuis l'orbite et revenir. Donc aujourd'hui, on ne sait pas encore.
J'ai l'impression que vous êtes candidat pour partir, Jean-François Clairvoy.
Ah oui, si on me donne l'occasion de participer longtemps à l'avance à la conception du vaisseau, de la mission, pour que je me l'approprie. Je suis pas un casse-cou. Je veux pas partir juste comme ça en faisant confiance aveuglément à celui qui...
Et vous, Sébastien Rouquette, vous seriez partant pour Mars ?
Dans les mêmes conditions, parce qu'effectivement, le voyage aller sans espoir de retour, c'est quelque chose qui m'emballe absolument pas, même si ça semble être très en vogue depuis pas mal de temps, avec quelques idées que je considère être saugrenues, de voyage aller simple, qui sont plus de la promotion que de la réalité scientifique.
J'ai une devinette pour vous. Qui a dit « la vie est la chute d'un corps » ? Paul Valéry, merci à vous deux, c'est un plaisir d'avoir cette discussion avec vous à propos de ce qu'on ressent quand on est en impesanteur. C'était Science en question par Étienne Klein, avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la prise de son Marie-Claire Oumabadi et à la réalisation Luc-Jean Reynaud. Tout de suite, vous retrouvez Bruno David pour le pourquoi du comment.
Ne vous êtes-vous jamais demandé quel degré d'intelligence pouvaient avoir les animaux ? Quel propriétaire d'un animal domestique n'a pas déclaré un jour à quel point son chien ou son chat était intelligent ? Mais qu'est-ce que l'intelligence ? Dans son sens le plus large, l'intelligence pourrait être définie comme une démarche permettant à un être vivant, ou à une machine d'ailleurs, de s'adapter à son environnement, ou bien d'adapter l'environnement à ses besoins. Il convient tout de suite d'évacuer une vision englobante qui considérerait l'adaptation de populations à leur environnement comme un signe d'intelligence. En effet, si une telle définition était appliquée à des populations entières, tous les êtres vivants pourraient être qualifiés d'intelligents, car tous s'adaptent à l'échelle de leur population, non pas nécessairement par résolution directe de problèmes, mais simplement par élagage des variants désavantagés. Néanmoins, même à l'échelle individuelle, une définition aussi large n'a pas grand sens, sans quoi on devrait admettre que les tulipes qui referment leurs pétales le soir venu font preuve d'intelligence en s'adaptant à la fraîcheur. Disons-le clairement, le degré de généralité de cette définition provient directement du fait que des scientifiques de disciplines distinctes, psychologie, éthologie, anthropologie, neurosciences, ne s'accordent pas sur une définition plus précise. Pour aujourd'hui, je vais m'en tenir aux animaux et à une définition plus proche du point de vue de l'éthologie et finalement aussi plus proche du sens commun, à savoir la capacité d'un individu à résoudre des problèmes posés par une situation spécifique, ce qui se traduit par une modification du comportement de l'individu en question. Bien évidemment, plus le problème est inédit, plus sa résolution implique une compréhension de la situation, puis une innovation pour s'en sortir. Sur cette base beaucoup plus resserrée, nous allons quand même constater qu'il existe plusieurs formes d'intelligence. Et je vais approfondir quelques exemples. Jusqu'à quel point les pieuvres sont-elles intelligentes ? Les céphalopodes, qui est le groupe qui rassemble les pieuvres, les seiches ou les calmars, et des animaux qu'on met assez facilement dans nos assiettes, sont réputés pour leur intelligence. On va regarder une pieuvre. La pieuvre était déjà bien connue pour piller les casiers à homards, donc des crustacés qui font partie de leurs proies favorites, et elles peuvent en sortir sans difficulté, alors que le homard ou les poissons s'y retrouvent pris au piège. Mais elle fait bien plus fort. Dans son milieu naturel, la pieuvre est capable de s'emparer et de faire usage d'un objet insolite. Elle est capable d'utiliser une coque vide de noix de coco, dont elle réunit les deux moitiés pour s'en faire une coque protectrice et s'y réfugier. Lorsqu'une pieuvre chasse des mollusques bivalves, comme des moules ou des praires, elle sait introduire un caillou entre les deux valves avant que celle-ci ne se referme complètement. Elle peut réaliser une tâche complexe passant par des étapes intermédiaires. Ainsi, elle est capable de dévisser le couvercle d'un bocal pour se saisir de la proie convoitée que ce bocal contient. Elle est capable d'apprendre rapidement le chemin qu'il convient de prendre pour sortir d'un labyrinthe, surtout s'il y a un bocal avec une friandise à la sortie. Si on enferme une pieuvre dans un bocal vissé, un petit peu bizarre, elle sait dévisser le couvercle de l'intérieur et elle sait en sortir. Et au-delà de tout ça, on peut apprivoiser des pieuvres, pour ceux ou celles qui seraient tentés. De nombreux laboratoires, dont des laboratoires français, travaillent sur la mémoire des pieuvres et leur capacité de planification ainsi que de généralisation, à savoir comment appliquer une solution apprise à une diversité de problèmes. On a pu observer chez les pieuvres la transmission de comportements par apprentissage d'un individu à l'autre. Flexibilité dans l'obtention d'informations, traitement et mémorisation, utilisation efficace, transmission, tout fait de la pieuvre et de sa cousine la seiche, des animaux intelligents. On a pu démontrer qu'elles peuvent innover, tromper, ressentir de la douleur. Et pour cette raison, les lois qui imposent des protocoles contre la souffrance animale incluent les céphalopodes.